Parole Rurale, une émission de reportage à la rencontre des paysans du Sud Aveyron, où l'agriculture racontée par ceux qui la font. C'est au cœur du village de Saint-Bozély, dans une de ses étroites ruelles, que l'on trouve Olivier, qui nous explique son métier et nous présente son atelier de distillation.
Bonjour, alors est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît ?
Donc je m'appelle Olivier Luspin, j'habite à Saint-Bozély et je suis paysan distillateur.
Tu distilles quoi ? Des fruits, des...
Moi je distille principalement des fruits, alors les miens ou ceux des autres. J'ai 1,5 hectare de verger et ensuite je vais ramasser des fruits chez des amis, collègues qui me laissent ramasser les fruits qui sont chez eux, qui n'utilisent pas. Et il y a certains fruits que je suis obligé d'acheter parce qu'ils ne poussent pas ici ou très mal. Ah, mais voilà.
Du type quoi ? Quel genre de fruits ?
Du type l'orange. Ouais, bon, ça, bah oui. Voilà. Parce que en fait, j'avais eu l'opportunité d'avoir un ami qui habitait en Espagne, qui me ramenait plein d'oranges. Donc je faisais avec ses oranges. Mmh. Là aujourd'hui, il a déménagé, donc maintenant je fais sans lui. Et ensuite les poires, je fais de la poire William, mais elle pousse pas ici. J'ai essayé, je me suis acharné, et là il faut que je me rende à l'évidence, le terroir convient pas.
D'accord.
Voilà. Bon, hélas.
Il faut dire qu'à Saint-Bozély, on est assez haut quand même.
Oui, on est à 700 mètres sur du grès, terre assez drainante, pas forcément profonde. Et du coup, les poiriers, pour eux, il faut quelque chose de plus frais, plus profond. Et là, c'est pas le cas.
Ah, ça le fait pas.
Tout ce qui est pommier, ça va. Les pruniers, mirabelles, très bien. Je vais essayer un peu de raisin cette année. Je pense que ça devrait aller, puisque anciennement, le verger, c'était des vignes, jadis.
Et alors, depuis combien de temps tu fais cette activité-là ?
C'est une reconversion. Ah. Avant, j'étais dans les télécoms, l'électronique, j'étais technico-commercial. Donc voilà, la vie en costard-cravate, à aller voir des gros clients dans les grandes villes de France,
dans les bureaux
voir d'ailleurs. Et au bout de 10 ans, je me posais une grande question, une grosse remise en question. J'avais pas envie de faire ça toute ma vie, envie de faire autre chose. Faire mon retour à la terre quelque part. Donc j'ai fait une formation agricole, j'ai quitté mon ancien boulot en 2010. J'ai fait plein de petits boulots pour essayer un peu tout. Mmh. Et en 2014, j'ai décidé de faire une formation agricole pour être chef d'exploitation avec spécialisation arboriculture parce que je me suis rendu compte que le domaine des plantes et notamment des arbres, c'était quelque chose qui me fascinait en fait. Je me suis rendu compte qu'on négligeait un peu ces êtres vivants que sont les arbres et qu'on leur devait pourtant beaucoup. Mmh. Donc c'est bien joli de partir de zéro, mais on plante des arbres et ils donnent au bout de 3, 5, voire 10 ans. Mmh. Et en attendant, il faut faire quelque chose pour manger. Et après, moi j'ai une formation de physique-chimie au départ. Et j'ai toujours aimé faire des petites préparations, des liqueurs, des romarangés, des choses comme ça. Mmh. Et j'ai donc décidé de commencer à faire des liqueurs, des apéritifs. Notamment le premier, c'était avec du buisson noir, du prunelier. Et petit à petit, je suis venu à... J'ai récolté des fruits que je voulais transformer pour faire d'autres préparations. Et une année, j'ai eu beaucoup de fruits, j'ai voulu faire distiller. Et là, je me suis posé la question, comme j'étais déjà inscrit aux douanes, peut-être qu'en faisant quelques papiers en plus, je pourrais peut-être acheter un alambic et me lancer. C'est ce que j'ai fait et je ne regrette pas parce qu'en fait, c'est vraiment un domaine où je m'éclate, où toute ma formation chimie me sert. Ouais. Et où je découvre tout le côté, il y a tout le côté parfumerie, un peu mystérieux, alchimique, tout ça là. C'est quelque chose de passionnant. Et puis j'arrive à faire des produits que les gens aiment bien, on me fait plein de compliments. Donc je me dis, ouais, finalement c'est chouette.
Mais parce que je crois que c'est assez compliqué, non, de maîtriser un alambic ? Il faut pas mal de vécu.
Il faut de l'expérience de manière générale. Il y a toute la partie traitement des fruits, qualité des fruits, c'est une partie importante. Et ensuite, il y a toute la préparation, la fermentation, comment bien faire fermenter ces fruits. Et ensuite, lors de la distillation, effectivement, la distillation, c'est une opération qui peut donner des choses très bonnes et des choses très mauvaises, notamment certains alcools qui sont mortels, comme le méthanol.
Ah oui, ah oui.
Donc, il ne faut pas se louper. Et il faut faire attention à ce qu'on fait, ouais.
Et alors, voilà. Tu fais comment? Tu donnes de ton corps? Tu goûtes avant de savoir si c'est valable?
Alors, ouais, tout le monde me demande si on goûte, mais en fait, goûter, ça sert pas forcément à grand-chose. Je fais tout principalement au nez, en fait. Mmh. Un peu comme dans les grandes distilleries, il y a quelqu'un qui est payé pour passer voir les alambics et dire ça on garde, ça on garde pas, etc.
D'accord.
Donc moi, c'est ce que je fais. Et j'ai décidé de faire les distillations... Enfin, j'ai acheté un alambic à bain-marie qui va tout doucement, mais qui chauffe pas trop les fruits. J'ai décidé de faire des distillations longues. Je me suis rendu compte que plus on attend... Enfin, plus c'est long, plus c'est bon. Et donc, mes distillations, elles durent entre au minimum 10 heures et parfois jusqu'à 48 heures.
Oh.
Voilà.
Oui.
Donc, c'est bien. Comme l'atelier, il est dans la cave de la maison, bah, je me lève la nuit pour aller voir.
D'accord.
Donc, je passe quelques nuits l'hiver un peu longues. Mais c'est une ambiance tellement particulière quand tout le monde dort, quand toute la rue est éteinte, que des fois il neige. Mmh. On rentre dans la cave, il fait chaud, on entend les petits bruits, l'odeur, on regarde si tout va bien, ouais, ok. Je remonte me coucher, je mets le réveil, je redescends 2 heures plus tard, et voilà.
Bah là, c'est plus du spiritueux, c'est du nectar que tu nous fais.
Ouais, mais il faut.
Il faut.
Je pense qu'en fait, on a les eaux de vie... Ça a l'image un peu de quelque chose un peu vieux. On a tous des souvenirs de l'eau de vie, du papy,
oui,
du tonton, tout ça, voilà, ouais. Qui arrache la gueule, qui voilà, et des fois qui est bonne. Et alors que je me suis rendu compte que en fait, en faisant bien, on pouvait avoir quelque chose de vraiment délicieux, en fait, qui est doux, qui brûle pas, qui voilà, qui donne même pas mal à la tête le lendemain, donc.
Ah bah ça, voilà.
Voilà.
Il coche toutes les bonnes
questions. Quel argument, mais oui, voilà.
Et un alambic, t'as pas trop galéré pour trouver un alambic? C'est compliqué maintenant, non?
Alors,
vachement réglementé.
Ouais, donc de toute façon, tout ce qui touche à l'alcool, c'est réglementé. Il faut de toute façon, à partir du moment où on fait de la bière ou de l'alcool à 90, il faut être inscrit aux douanes, immatriculé aux douanes. Donc lors de l'inscription, il y a examen du casier judiciaire. Mmh. Il y a des garanties à apporter, des tas de papiers à remplir. Notamment, il faut faire aussi une déclaration mensuelle de stock. Donc ça, c'est pas mal de papiers. Il faut faire un peu preuve de rigueur. Mmh. Parce que le jour où il y a un contrôle, il ne faut pas qu'il y ait 10 litres qui soient passés on ne sait où. Voilà, mmh. C'est normal, c'est le jeu, comme le tabac, le pétrole ou les autres monopoles d'État. De toute façon, si on fait avec l'alcool, c'est comme ça. Et pour l'achat de l'alambic, donc c'est pareil, les alambics doivent être immatriculés comme une voiture. Et donc là, le mien, je l'ai trouvé d'occasion à un syndicat de bouilleurs de crue qui était dans le Jura, dans un village qui s'appelait la Chapelle-sur-Furieuse. Déjà, ça met dans l'ambiance. Je suis allé le chercher en plein mois de février, il y avait de la neige partout.
Oh là là,
c'était
dans le Jura, il
c'était
fait moins 40
magique. Ah, c'était la Sibérie, ouais.
Ah
ouais. Et voilà, c'était un alambic qui avait déjà tourné un peu en Alsace. Il n'est pas très vieux, il date des années 80. Je l'ai ramené, voilà, j'ai dû faire une ou deux petites réparations dessus, depuis, parce que je l'ai quand même... Je lui tire bien dessus.
Ouais.
Et pareil, la moindre réparation d'un bout de tuyau en cuivre de l'alambic, il faut faire un papier avec la douane du département où je suis, du département où ça va être réceptionné, en déclarant le temps de trajet, etc. Ouais, c'est contraignant.
Ah ouais, ouais, quand même.
Mais bon.
Bon, mais quand on est accroché...
C'est le jeu, voilà. Quand j'ai fait ma reconversion, là, il y a aussi ce que je trouve là dans le métier, c'est bah, la fierté de partir de zéro et de faire des choses qui marchent, qui plaisent, et voilà quoi.
Bon alors, tous ces bons produits, comment les vends-tu?
Alors, on les vend principalement au début, on vendait en vente directe, on faisait les marchés, après les gens venaient à la cave. Ensuite, on a commencé à démarcher des restaurants, des épiceries, des choses comme ça. Depuis 2 ans, depuis qu'on est agriculteur, donc on est... Parce qu'avant, j'étais artisan au début. Mm-hmm. Je suis passé agriculteur à partir du moment où j'avais un verger qui pouvait justifier d'une activité agricole. Ouais. Et donc on s'est mis, je me suis mis associé dans un, au magasin de producteurs de Rodez. Et après, paysan direct, et après, on est dépôt-vendeur au marché paysan à Millau et à Sainte-Afrique, chez les paysans aussi. Et après, en Lozère aussi, c'est la Grange des Saveurs. Et ensuite, on continue à faire toujours donc, des foires, des marchés de Noël, des choses comme ça, les marchés nocturnes. Comme on a quand même pas mal de bons retours de clients qui commencent à venir de loin, de plus en plus pour venir directement à la cave, on a des entrées chez des cavistes, des restaurants étoilés, des choses comme ça, à Montpellier, Toulouse. Et donc on va essayer de développer cette, ces clientèles-là.
Voilà. D'accord. Alors au jour d'aujourd'hui, est-ce que vous en vivez bien ? Est-ce que tu peux réparer, faire une grosse réparation quand ça te tombe dessus ? Est-ce que vous partez en vacances ? Est-ce que...
Alors, on s'autorise à partir en vacances une semaine ou deux par an. Il y a aussi le temps. Il faut trouver le temps hein, avec le végétal. Ben, on ne peut pas faire ce qu'on veut n'importe quand.
Ouais. Et sinon, au niveau pépette, vous vous en sortez bien ?
Alors, on est à deux là-dessus. On n'est pas, on est pas au SMIC. Hein. Ouais. On sort, on va dire, un SMIC pour deux, on va dire. Ouais. Parce que aussi, ma compagne m'a rejoint à plein temps cette année. Ça a bien développé le chiffre d'affaires. Bon, il faut encore que ça s'améliore. Quand moi, j'étais tout seul dessus, ouais, je me sortais un petit SMIC, on va dire. Et là, ça devient un gros SMIC pour deux. Donc, bon, dans un an, je pense que ça, ce sera bon, quoi.
On va peut-être passer aux questions philosophiques.
Ah, ah.
Tu peux sortir ta pipe. Alors, ce beau métier d'agriculteur, distillateur, on dit ?
Ouais, voilà, ouais.
Je sais pas si tu as déjà été sollicité par des jeunes stagiaires ou des gens qui se cherchent. Est-ce que c'est un métier que tu conseillerais, toi ?
Bah ouais, de toute façon, tous les métiers, vu qu'on est en contact avec plein d'autres agriculteurs qui font de la viande, du pain ou autre chose... C'est des gens attachés à la terre, à ce qui vit, en fait. Et c'est quelque chose, je trouve, que la plupart des gens qui travaillent dans des bureaux ont un peu perdu de vue, comme moi, j'étais, en fait, avant, qui amène à considérer des valeurs morales qui sont un peu perdues et qui feraient beaucoup de bien dans le monde d'aujourd'hui, en fait. Mmh. Comme l'humilité, en fait, quand on... passe 2 heures à nettoyer du fumier ou épandre des choses sous la pluie, sous la neige, tout ça, là. Faire des comptes, tout ça, faire de la vente. Cet aspect d'être multitâche, en fait, c'est quelque chose d'hyper enrichissant et qui est très bon pour l'humilité, ouais, très important. Après, ouais, travailler avec le vivant, c'est génial. D'une année sur l'autre, on n'a pas les mêmes choses, on vit au rythme des saisons. On se rend compte quand une année était plus pluvieuse, les fruits étaient plus comme ça, où il y a eu ceci, cela. Moi, je passe beaucoup de temps à observer dans le verger les arbres, les espèces qui viennent polliniser, tout ce qui se passe en fait, et j'apprends plein de choses. Donc, je le conseille. Après.
Tu mets en garde alors ?
Sur quoi je mets en garde ? Bah de bien savoir quand même faire des calculs, des prévisionnels. Il y a tout un aspect comptabilité, paperasse, qu'il faut pas négliger, qui est important. C'est pas le plus passionnant, mais il est nécessaire. Et il faut quand même un peu calculer son coût pour pas s'épuiser, parce que c'est des métiers un peu épuisants, pour des clopinettes, quoi, en fait.
Ma dernière question, alors, est-ce que tu as une idée, même si ça fait peu de temps que tu es dans le milieu,
ouais.
Est-ce que tu as une idée, toi, de ce que pourrait être l'agriculture dans les années à venir ? Que ce soit ton agriculture, ta région, ou même...
Je pense que l'agriculture, c'est un peu un point central de l'évolution du monde moderne, où on a tendance aujourd'hui, là, dans la course à la croissance, à gaspiller un peu toutes les ressources sans se soucier trop des conséquences. Hein. Après nous, le déluge. Mmh. Voilà, la mentalité d'après-guerre, baby-boom, surconsommation et tout ça. Aujourd'hui, on en voit les limites écologiques, même au niveau du changement climatique. À toutes les personnes qui seraient encore sceptiques là-dessus, je les invite à discuter avec des agriculteurs, des arboriculteurs. Ils vont vous dire que le changement climatique, ils le voient, on le voit tous les jours depuis plusieurs années. Les saisons sont plus pareilles, les plantes souffrent. Il y a des choses qui se faisaient avant qu'on ne peut plus faire, il y a des choses qui évoluent. Alors voilà, la vie s'adapte. Là, le changement, il est quand même un peu brutal. On ne part pas sur des acquis sûrs, en fait, hein, quand on se lance dans l'agriculture aujourd'hui. Là, dans l'Aveyron, depuis 2 ans, il y a des invasions de campagnols. Ça paraît tout bête, mais ils ravagent les prairies. Moi, j'en ai un peu sur mon terrain, là. Ça m'a bouffé plein de racines de petits arbres. Je connais des éleveurs sur l'Aubrac qui ont leur prairie. C'est un champ de mine, en fait, et c'est un problème. Et ces invasions-là, ça arrivait avant, mais pas à ce point-là, en fait. Donc, les conditions climatiques ont fait que ça arrive.
Rêver un impossible rêve, porter le chagrin des départs, brûler d'une possible fièvre, partir où personne ne part, aimer jusqu'à la déchirure, aimer même trop, même mal, tenter sans force et sans armure d'atteindre l'inaccessible étoile. Telle est ma quête, suivre l'étoile. Peu m'importe mes chances, peu m'importe le temps ou ma désespérance. Et puis lutter toujours, sans question ni repos, se damner pour l'ordre d'un mot d'amour. Je ne sais si je serai ce héros, mais mon cœur serait tranquille, et les villes s'éclabousseraient de bleu, parce qu'un malheureux brûle encore, bien qu'ayant tout brûlé. Brûle encore, même trop, même mal, pour atteindre à s'en écarteler, pour atteindre l'inaccessible étoile.
Alors voilà.
Ah ben voilà. On est dans l'atelier sous ta maison.
Voilà, dans la cave sous la maison. Mmh. Donc c'est une cave en grès que j'ai tout rejointoyé. J'aurais fait de la plomberie, de l'électricité. C'est pas très grand, mais tout à sa place.
Donc, puis il y a une odeur de marc.
C'est normal. ça reste. Maintenant je m'en rends plus compte moi, mais. Et encore, là, aujourd'hui, il n'y a pas de distillation, mais normalement, donc il y a une ambiance, il fait chaud, c'est un peu humide, il y a plein de petits glouglous, une petite odeur, tout ça, là. Voilà, donc là, c'est des cuves dans lesquelles il y a l'apéritif, le buisson noir, oui. Qui macère, là. Donc celle-là, elle a été remplie il y a 2 ans, et celle-là, remplie cette année.
D'accord, et pendant 2 ans, tu le laisses dans la cuve.
Ouais, voilà, je brasse, je remets un peu des nouvelles plantes.
Donc une cuve inox de 500 litres.
Ouais, c'est ça.
Il y en a deux.
Il y en a deux, ouais, faut ça. Hein.
D'accord.
Il faut bien ça.
Et puis on voit plein de bonbonnes. Comment ça s'appelle ces bouteilles là comme ça ?
Des Dame Jeanne.
Dame Jeanne.
Et alors voilà, parce que quand je fais une distillation, ce qui sort de l'alambic, je distille 2 fois. La première fois, donc, ça sort à 30 degrés à peu près. Mettons un bidon de prune, ça me fait 20 litres ou 30 litres de jus à 30 degrés, on va dire. Je le mets dans une Dame Jeanne. Quand j'ai distillé tous mes bidons de prune, je remets tout ça dans l'alambic, je repasse et là je fais une distillation
très longue. C'est là où je me couche tard, voire pas du tout. Là, ça sort à 70-80 degrés. Et après, je le laisse vieillir dans ses dames Jeanne. Mm. Et donc...
Combien de temps tu laisses vieillir ?
Il faut... Le minimum, c'est vraiment un an pour une eau de vie. Ouais, c'est très long dans ce métier. Il faut vraiment... accepter la valeur du temps, en fait. Ouais. Parce qu'il s'écoule 2 ans, on va dire, entre le fruit et la bouteille vendue.
Oui, il faut minimum. Être capable de se projeter pas mal à l'avance.
Voilà, il faut vraiment
calculs et tout.
Pas être pressé. Mmh. Si on essaie de faire accélérer les choses, on fait de la merde. Donc voilà, très bonne leçon pour le monde actuel aussi. Voilà, il voilà, y a voilà. Un broyeur pour broyer les pommes, les coins.
Très bien, gros broyeur en plastique qui vient d'Allemagne, apparemment.
Ouais, c'est du costaud, ça va.
Voilà, très bien.
Et ouais, on fait un petit peu de jus aussi, de pommes, parce que c'est bien joli de faire que de l'alcool, mais nos enfants, des fois, ils se disent, et alors, quand est-ce qu'on peut goûter ?
Et nous, alors ?
Et nous ? D'ailleurs, c'est ma fille qui a fait l'étiquette sur le jus de pomme, là, voilà.
Ah ouais. Pour rigolo.
Fait grosse maison. Pomme. Voilà, donc là, il y a encore plein de bidons, de transvasements, de choses comme ça.
Puis, alors, des bidons de 20 litres remplis, à moitié remplis, il y en a plein.
Il y en a, ouais, je sais pas combien il y en a, peut-être une cinquantaine en tout. Et encore, il y en a qui sont stockés au grenier, parce que c'est là que ça vieillit le mieux, avec les variations de température. Il y en a une trentaine qui vieillissent... dans une autre...
Parce que au grenier, tu as une température stable, c'est nécessaire ?
Non, justement, c'est pas isolé et c'est mieux. L'été, ça chauffe, l'hiver, ça refroidit. Et toutes les variations de température réassemblent les molécules aromatiques qui sortent en pièces détachées un peu lors de la distillation.
Voilà.
Par exemple, une poire, quand on la sort de l'alambic, la deuxième fois, la deuxième passe, ça n'a pas un goût génial, ça sent pas grand-chose. Et au bout de 6 mois, ça y est, il y a quelque chose qui commence à apparaître. Au bout d'un an, ça y est, là, on a le goût de la poire. Et ça, c'est la magie de la patience, du temps. Donc là, voilà, c'est les cuves dans lesquelles il y a la musette, donc le petit ratafia de pomme, voilà, avec une jolie couleur. Puis c'est là que je fais toutes mes mises en bouteille et tout.
Voilà. Donc là, voilà l'atelier de stockage, on va dire.
Stockage.
Des étagères, avec... des cartons.
Voilà, on a mis des jolies couleurs sur les étiquettes.
Ouais, c'est joli. Hein.
Et donc, ouais, l'atelier, c'est la muse du verger. Ouais, je ne l'ai même pas dit. Donc, on a dessiné une jolie petite muse en référence à la rivière qui passe. Et puis, pour le symbole féminin qui nous nourrit, qui nous inspire. Voilà.
Comme c'est joli, Mandy. Ah, mélocoton ? Ça, là ?
Ça, c'est la
c'est
Mirabelle,
abricot ?
Ça.
Ah, Mirabelle ?
C'est la Mirabelle.
Oh, ça, c'est beau, la Mirabelle, aussi.
L'abricot, il est là.
Ah,
voilà,
ah oui, d'accord. Bon, mais ça y est, t'en as déjà pas mal.
C'est le début. Ça rend pas beaucoup, l'abricot, mais...
Ah ouais ?
Tiens, si tu veux...
Ouais, c'est assez sec.
Sentir...
Ah oui ! Oh, on reconnaît bien l'abricot, oui.
Ça sent, ouais.
Ah ouais !
Là, c'est les voisins qui sont contents des fois quand ça distille, ils disent « Oh, ça sent jusqu'en bas de la rue, c'est super !» Et donc voilà, le maître des lieux, l'alambic. Bon là, j'ai pas mal distillé, j'ai pas bien nettoyé, hein, ça ne présente pas très bien.
Alors c'est un gros cylindre en inox, j'imagine ?
Ça c'est une chemise en inox, et après dedans c'est une grosse marmite en cuivre. Voilà.
Ah oui.
Avec double pot, avec un bain d'huile pour chauffer doucement. Tu vois, on sent encore on sent qu'il y a des choses qui se sont passées dedans.
Et alors, tu nettoies entre deux fournées ?
Ouais. Nettoyer, c'est essentiel. C'est comme pour la bière. Si on laisse des saletés dedans, au bout d'un moment, il y a des dépôts, des huiles, des trucs qu'il ne faut pas.
Et puis ça bouche les trous et tout ça, j'imagine.
Ouais. Et puis, des acides qui peuvent ronger le cuivre. Donc, c'est pas bon. Et donc voilà, ça chauffe ici. Là, il y a une petite soucoupe qui permet de refroidir encore un peu plus pour les étapes critiques. Voilà, une lentille de refroidissement. Mm-hmm. Le col de cygne, il est rangé derrière. C'est le tuyau en cuivre que j'avais fait réparer. Et voilà la cuve d'eau, donc dans laquelle il y a le fameux serpentin en cuivre qui descend et qui fait sortir jusque là.
D'accord. Et un petit robinet donc situé en bas. C'est là que tu récupères le
liqueur. C'est là que je mets ma gamelle en inox pour récupérer
Le précieux liquide.
Le précieux.
Voilà.
Et donc ça, tu le chauffes comment ?
Alors, c'est chauffé au gaz. Il était prévu pour chauffer au bois. Mais j'avoue que je me sens pas de gérer la chauffe au bois pour l'alambic. Il faut vraiment avoir du bois précis, calibré, plus ou moins sec. Je me le sens pas encore. Pour l'instant, je suis au gaz. C'est beaucoup plus simple et plus précis pour l'instant. Mais bon, peut-être qu'un jour, il faudra y revenir. Hein, voilà.
Bon, mais fin de la visite de l'atelier.
Voilà.
Donc là, notre cave.
Dans cette petite cave aussi, qu'il a fallu retaper, il y a tous les bidons de fruits qui fermentent. Alors cette année, il n'y a pas eu beaucoup de fruits à cause du gel. Ouais. Mais normalement, c'est archi blindé partout. Voilà, donc c'est là que ça fermente doucement, que je surveille tout ça. D'accord.
Donc c'est des bidons de combien, 500 ?
Ça c'est 100, 120 litres, ah bon ? Ça c'est 60, j'en ai qui font 200 au fond. D'accord. Donc là on a de la mirabelle, il doit rester un petit peu de prune de l'année dernière à faire. La poire, je l'ai finie.
Quelques cagettes de pommes.
Oui, voilà, bah ça c'est pour c'est les pommes de Saint-Bozély, voilà, pour la conso perso. Ouais.
C'est sympa. Non, c'est vrai, c'est joli.
Par année, on travaille à peu près 8 tonnes de fruits, à peu près.
Ah ouais ?
Ouais. Heureusement, alors, tout arrive pas au même moment. Ouais.
8 tonnes de fruits, tu sors combien de litres de liqueur ?
Je sais pas, parce qu'il y en a plein qui sont stockés, mais on sort à peu près 1500 bouteilles par an, quoi, un truc comme ça.
D'accord. Des bouteilles de 50 ?
50, on fait des petites bouteilles de 20 centilitres aussi. Mmh. Et en fait, il y en a qu'on laisse vieillir pour pouvoir faire des eaux de vie dans quelques années qui ont 5-6 ans d'âge, des choses comme ça. Mmh. Donc voilà, ça fait beaucoup de trésorerie qui est immobilisée. Hein. Ouais. Mais bon, c'est le jeu. Ce sera pour plus tard.
C'est ça, faut être patient, comme tu disais.
Voilà, ça commence ici. Donc il est tout en pente.
Ok.
On a marché vite, là.
Donc au-dessus de nous, en terrasse.
Voilà, il y a trois grosses terrasses, on va dire. Donc là, c'est la partie un peu sèche en bas. Mmh. Il y a quelques pêchers, parce que j'ai envie de faire un truc avec des pêches. Ouais. Là, j'ai planté quelques petits arbres. Voilà. Il faut bien occuper l'espace. On va passer par là.
Oui, je te suis. Du fumier.
Voilà, ben ouais, faut donner à manger aux arbres.
Ouais.
Alors, il y a des endroits où il y a du fumier, d'autres endroits, tu vois, ben, il y a de la drèche, ce qui sort de l'alambic. De la drèche, ça, c'était de la poire. Hein, il y a de la prune, de la mirabelle qui se balade.
Et donc voilà. Ici, tu as quoi comme arbre ?
Alors, il y a de la passe rose de Saint-Bozély, il y a d'autres variétés aussi, cox orange, des choses comme ça qui étaient plantées avant que j'arrive. Il y a de la reine Claude dorée, c'est les pruniers qui sont là. Hein. Puis après, il y a quelques arbres que moi j'ai greffés aussi et j'ai voulu mettre de la passe rose pour garder le patrimoine végétal.
C'est quoi la passe rose ? La pomme.
La variété Saint-Bozély, ouais, qui va bien pour la transfo. Voilà, et après, il y a pas mal de framboisiers. Mmh. Tu vois, il y en a sous la terrasse ici, au-dessus, là. Hein. Et après, tout là-haut, tout ça s'en est là. Il y a deux rangées.
Ah oui, sur le bord de la terrasse d'au-dessus.
Ouais, tout en haut, tout ça s'en est.
Ouais, t'as pas mal de pieds là-haut.
Ouais, ça occupe.
J'imagine. Puis la cueillette, c'est méticuleux, faut pas abîmer le fruit.
C'est très long, ouais. La framboise, ouais, c'est vraiment le fruit le plus délicat, ouais, qui se conserve pas, donc c'est très, très compliqué. Donc voilà ce que je te disais pour l'irrigation. Eh ben, j'ai construit cette espèce de hangar.
Ah. Et donc c'est juste un toit.
Récupère l'eau de pluie, voilà.
Voilà, juste un toit avec une gouttière.
C'est ça, avec des
pour filtres. Alimenter les tonneaux.
Voilà, donc en totalité, il y a quasiment 20 mètres cubes en fait stockés sur le terrain, entre là et en bas. Uh-huh. Et en fait, tout est arrosé par gravitation,
ouais,
goutte à goutte. Et voilà, et c'est d'accord, comme ça que j'arrive à les tenir, parce que depuis 4 ans, cet été dernier, ça a été, mais les autres étés, il y avait des sacrées canicules. Mmh. Et là, j'ai vraiment vu l'impact sur les framboisiers notamment. Qui d'habitude, les cannes font 2 mètres de haut, bah là, tu vois, elles font 1 mètre, quoi. Ouais, ouais. Donc, ça leur a fait mal, quoi. Ouais. Et je pense qu'ils n'avaient pas arrosé, j'aurais tout perdu. D'ailleurs, il y a au fond, là-bas, tu vois, où c'est près de la forêt,
ouais, Ça a moins bien marché.
Ouais, ils font un peu la gueule. Hein.
Voilà. Et là, t'as assez pour arroser tout l'été parce que t'as une surface de toit de quoi, de 200 mètres carrés.
Ça fait 100 mètres.
100 mètres.
C'est un peu juste. Puis après, voilà, on est au milieu de la forêt. Donc, j'adore venir là, que ce soit l'été ou l'hiver. Des fois, quand c'est tout embrumé, il y a une espèce d'ambiance. Là, un jour, il y avait un vautour dans le sapin. Là, je l'avais pas vu. Puis il a décollé juste devant moi. C'est impressionnant.
Oui, et puis des biches, non, tu dois voir ici.
Ouais, des chevreuils. Alors, faut faire gaffe.
Oui, ils ne te bouffent pas les... Si.
Ah. C'est pour ça qu'il y a des protections un peu partout.
D'accord.
Tout est grillagé, mais...
Électrifié ou pas?
Pas électrifié. Bon, mais déjà, avec les protections sur les arbres, là, ça allait... Ça va. Ils grignotent deux, trois trucs qui sont...
Oui, la protection dont tu parles, c'est une espèce de voile, un grillage très fin autour du tuteur.
Ouais, l'espèce de chaussette, ouais. Voilà.
Bon, ben ouais, là, t'es pas mal, hein. Donc, il voulait un retour à la nature.
Ah, mais là, mon deuxième bureau, il est,
il est
génial.
Là. Ouais. Et puis, c'est à côté de chez toi.
C'est juste à côté.
C'est un énorme avantage.
Ouais, bah, pouvoir y aller à pied, c'est...
Et tout ça, t'as trouvé ça comment?
Eh ben, c'était une personne du village avec laquelle je m'entendais bien, qui m'avait dit ben, un jour, quand je voudrais vendre le terrain, si ça vous intéresse. Je lui ai dit, oh ouais, avec les fruitiers et tout. Et voilà, ça s'est fait. Et je le remercie beaucoup.
Ouais, grâce à lui, tu as pu te lancer, quoi.
C'est ça, grâce à lui. Ouais, parce que trouver du terrain ici, c'est dur. Hein. Voilà.
Donc, on a à peu près fait le tour, là.
Ben, je pense. Peut-être sur le bio, non? On n'a pas parlé. Non,
on n'a pas parlé du bio. J'ai pas dit, t'es déclaré
en bio? Moi, je ne suis pas déclaré en bio. Par contre, je ne traite pas mes arbres, en fait. J'aurais envie d'être en bio, de me mettre sur Nature et Progrès, mais il y a un ingrédient que j'utilise, le vin. Il n'est pas bio, en fait. C'est un bon vin qui est fait dans le Gard à la gravette de Corconne, qui est... Ils travaillent bien, mais voilà, ils sont pas en bio, ça bloque. Et après, je me dis, mes produits sont déjà un peu chers, c'est un peu du produit de luxe quand même. Est-ce que c'est logique pour quelqu'un qui se fait suer, à pas traiter, donc à passer plus de temps à désherber? Là, je désherbe à la main, hein, les framboisiers. Hein. À faire ça, est-ce que c'est normal qu'ils payent et qu'ils répercutent le coût sur des clients qui font le choix d'aller sur du bio? Quelque part, c'est double peine, en fait, pour eux. Est-ce que ce ne serait pas plutôt les gens qui traitent, qui devraient avoir un malus, en fait, sur leur production? Vaste question.
Ouais, vaste question. Peut-être une piste pour l'avenir de l'agriculture.
Ouais, pour la prochaine PAC, pour le plan 2030, ouais.
Ouais, mais là...
On peut toujours rêver.
Peut-être que le problème aussi, c'est que les gens qui ont pas, qui ont peu de moyens ou qui consacrent peu d'argent dans la nourriture vont devoir payer plus cher la malbouffe.
Bah, enfin, c'est... triste à dire, mais j'espère, quoi. Parce que on a perdu le coût réel de la nourriture, en fait. On s'est habitué à des prix anormalement bas dans les supermarchés, alors que, putain, c'est pas... Vu le boulot que c'est pas normal, quoi. Ça coûte pas ça, un bon produit, en fait. Si on veut être bien, pas être malade... ça participe à la santé aussi, de bien s'alimenter. Et les gens, ils ont oublié ça beaucoup aujourd'hui, quoi. Quand ils disent « Ah, mais c'est trop cher !» Eh bien oui, mais c'est propre, il n'y a que des bonnes choses dedans.
Bon, mais sur ces bonnes paroles, hein, je crois, Olivier,
on a fait le tour.
Je te remercie en tout cas d'avoir pris le temps de me recevoir.
Eh ben, c'était un grand honneur de recevoir Radio Saint-Ève.
Puisque tu es un auditeur de Radio Saint-Ève.
Oui.
Bon, ben, merci beaucoup.
Merci à toi.
Je fais stop.
Merci à Olivier pour son accueil et sa pédagogie. L'émission Parole Rurale est diffusée tous les mardis à 8h15 et rediffusée les jeudis à 18h et dimanche à 14h. Également disponible en podcast sur le site radiosaintafrique.com. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même antenne.